Vous êtes toujours sur le studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal au micro Nefis Adam Sirfo. Voici nos titres à célébration ce 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés. Reporters sans frontières dénonce les obstacles délibérément mis en place par les États pour entraver la couverture médiatique de la plus grave crise humanitaire du début du 21e siècle. Le point dans ce journal. Le Front démocratique et républicain FDR n'est pas pour les audiences foraines en cours au Niger pour les élections de 2021. Il accuse la dernière mission de l'OIF au Niger de s'être rangée du côté du pouvoir. Il a fait savoir ce matin lors d'une déclaration à Niamey. La partie magazine de ce soir parle de la révolution salafi en Afrique de l'Ouest. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée aujourd'hui, l'organisation Reporters sans frontières dénonce les obstacles délibérément mis en place, selon elle, par les autorités, par les États, pour entraver la couverture médiatique dans les centres d'accueil des migrants. Dans un rapport, RSF fait le point sur les difficultés que rencontrent les journalistes des pays concernés d'Afrique et d'Europe dans leur travail. Rehilat Soumana.
Reporters sans frontières qualifie cette situation des migrants comme étant la plus grave crise humanitaire du début du 21e siècle. Menaces, intimidations, interpellations, poursuites judiciaires, refus d'autorisation et d'interviews, etc. illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes qui tentent d'approcher les centres d'accueil des migrants. Selon RSF, le tableau est encore plus noir à Agadez au Niger, qui représente le carrefour des migrants africains. Même avec une carte de presse, le centre de l'Organisation internationale pour les migrations est inaccessible, précise l'organisation dans sa publication. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a déclaré que les États ont le devoir et la responsabilité de ne pas entraver l'exercice du journalisme prétextant des raisons sécuritaires et de ne pas promouvoir une vision édulcorée d'une réalité souvent tragique.
En bref, l'opposant Hama Amadou, leader du Modem FA Lumana, en exil en France, n'est plus député du Parlement nigérien. La Cour constitutionnelle du Niger, en son audience du 19 juin 2018, constate la vacance du poste de député occupé par Hama Amadou. La Cour avait été saisie à cet effet par le bureau de l'Assemblée nationale le 7 juin dernier. Cette mesure est la conséquence de la condamnation à un an ferme de prison prononcée contre Hama Amadou. C'était le 13 mars 2017 à la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Niamey. Toujours en bref, le délibéré dans l'affaire des deux activistes de l'Union des jeunes nigériens pour le développement UJND appelant le président de la République à briguer un troisième mandat est tombé hier à Zender. Salifou Ibrahim et Braïssoufou écopent d'un an d'emprisonnement ferme. Par ailleurs, le juge a rejeté la semaine dernière la demande de non-lieu et de mise en liberté de Elhaj Iliad Malam et Yahya Badmassi. Une demande introduite par l'avocat de ces acteurs du cadre de concertation et d'action citoyenne. Ce matin, à Niamey, le Front démocratique et républicain FDR a dénoncé cette initiative d'audience foraine en cours au Niger dans le cadre des préparatifs des élections de 2021. Le Front accuse la dernière mission de l'Organisation internationale de la francophonie de complicité avec le pouvoir nigérien. Écoutons Falke Bacharou, président du Front, au micro de Habibou Garba.
La dernière mission de l'OIF du 9 au 14 juin 2018 a mis bas masque et s'est rangé du côté du pouvoir. Il s'agit d'une complicité manifeste inacceptable, d'autant plus que toutes les structures rencontrées par cette mission ont accueilli favorablement la tenue de ce dialogue inclusif, à l'exception de la majorité gouvernementale. Le FDR exige la libération sans condition de tous les détenus politiques dans les plus brefs délais, accompagnés des mesures individuelles d'apaisement social. Deuxièmement, l'organisation d'un dialogue inclusif devant conduire à sortir le pays de la situation de cette crise économique, politique, institutionnelle et sécuritaire dans laquelle il se trouve. Troisièmement, la création des conditions permettant l'organisation à des dates consensuelles d'élections libres, démocratiques, justes, inclusives et apaisées.
Célébration hier mardi 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique du sang. Selon la présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger, l'on enregistre 3 700 000 de drépanocytaires, soit une prévalence de 23%. Au Centre national de référence de la drépanocytose, ce matin, notre reporter Diallo Maria Makenda a rencontré des enfants malades avec leurs parents. Écoutez le témoignage d'une grand-mère d'un garçon de 9 ans.
Cela fait 5 jours que nous sommes ici. En tout cas, ça fait un moment que cet enfant n'avait pas piqué de crise. Auparavant, c'était de fortes crises. Mais à présent, cela a beaucoup diminué. En général, la crise débute avec beaucoup de fièvre. Il était presque mort quand nous sommes arrivés au centre. Mais son état s'est amélioré. Il ne peut pas pleurer car il est muet. La maladie lui a tout pris. La parole, les bras, les pieds, il était en classe de CEI. Je m'occupe moi-même de tout lui faire. Il prend des produits tous les jours. Les produits pour les traitements coûtent excessivement cher. Avant, un seul coûtait 25 à 30 000 francs. Aujourd'hui, les prix ont baissé. Avant-hier, j'ai acheté un à 12 500 francs.
Plusieurs milliers de personnes pourraient être affectées cette année par des inondations dans certaines régions du Niger. C'est dans le bulletin du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies publié le mardi 19 juin. Détail avec Tarnan Foudaï.
Le Niger est sur le risque de faire face à de nouvelles inondations cette année. Plus de 170 000 personnes pourraient être affectées par ces inondations, particulièrement dans les régions de Dosso et Niamey, selon une information rapportée par les derniers bulletins du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Les prévisions climatiques saisonnières pour la période de juillet à septembre laissent entrevoir de fortes pluies dans plusieurs régions de notre pays. Selon les experts, les cumuls pluviométriques associés aux fortes pluies et aux écoulements excédentaires sont également attendus dans les régions de Tillabéri, Niamey, Dosso, Tawa, Maradi, Zender et Diffa. Comme les années précédentes, les mesures de prévention de cette catastrophe annuelle pourraient s'avérer insuffisantes cette année au regard des prévisions avancées. Bien que les zones inondables et les populations susceptibles d'être affectées soient connues, l'action des intervenants semble s'orienter davantage vers la réponse que vers la prévention, rapporte OCHA.
Parlons éducation. Au Niger, 44 diplômes différents sont utilisés pour enseigner la science de la vie et de la terre, SVT. C'est une information de Alkassou Maman, enseignant de formation en service au ministère des Enseignements secondaires. Alkassou est aussi secrétaire chargé de l'information et de la communication du BENSNES, le syndicat national des enseignants du secondaire, et il est administrateur de la page Facebook L'école nigérienne. Il est au micro d'Alassane Kouzi.
Il y a beaucoup de gens qui sont recrutés pour enseigner SVT à la fonction publique. Mais sur le terrain, quand vous allez voir, ce n'est pas SVT qui l'enseigne. Quand vous prenez les géologues, les biologistes, même les agronomes, beaucoup d'entre eux enseignent la mathématique et les sciences physiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a insuffisance des professeurs. Un enseignant m'a donné un exemple selon lequel, dans un CEG dont il a donné le nom, il y a, tenez-vous bien, un juriste qui enseigne SVT par manque d'enseignants dans l'établissement. Quand on n'a pas les diplômes requis pour enseigner la matière, on ne peut pas enseigner la matière. Ce n'est pas possible. Et ces lacunes-là, ça va se répercuter sur la qualité de l'enseignement et bien sûr aussi sur le niveau des élèves.
À qui la faute ?
On a un grand besoin, ce qui fait qu'on recrute un peu de tout. Et aujourd'hui, les jeunes sont là, ils sortent avec des diplômes. Il faut qu'ils trouvent un travail à faire. Et quand ils disent qu'ils peuvent enseigner, alors qu'il y a des établissements qui n'ont pas ouvert toute l'année dans la discipline, qu'est-ce qu'on peut faire ? On les recrute, on les donne comme ça, ils font. Mieux vaut ça que de ne pas faire du tout.
Les États-Unis ont annoncé hier le retrait du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie du Niger. C'est une décision qui vient confirmer la position du gouvernement américain. Selon Kani Abdoulaye, depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis considèrent que l'ONU et ses institutions sont inutiles. Il est au micro de Moussa Hassan.
Nous pensons que pour les États-Unis, c'est une régression parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut rester en marge du monde.
monde. Vous l'avez fait parce que vous jugez qu'on a voulu prendre une résolution comme Israël et que vous la jugez impartiale. Alors qu'on est parti prendre un président en Irak, personne n'a rien dit. Je pense que si les autres nations du monde sont conséquents avec eux-mêmes, ils doivent dire aux États-Unis d'Amérique que vous n'avez même plus droit au veto. Puisque le Conseil des droits de l'homme est l'un des plus grands organes après le Conseil de sécurité. Parce qu'il y a le Conseil de sécurité où on donne des vetos à un certain nombre d'États pour mettre en œuvre ce que le Conseil des droits de l'homme en tant que mécanisme de défense, de protection, de promotion de tout ce qu'il y a autour de l'homme. Si vous êtes conséquent avec vous, remettez-nous notre droit de veto. Je dis, l'Afrique est le seul continent où il n'y a pas de droit de veto. Et je pense que ce n'est pas en leur faveur de vouloir que le Conseil des droits de l'homme. Vous pouvez ne pas partir à une convention, à un protocole, à un traité, mais quitter le Conseil des droits de l'homme, je pense que c'est une honte pour l'Amérique.
Du sport dans ce journal sur les 5 équipes africaines aux phases finales de la Coupe du Monde en Russie. Seul le Sénégal a pu décrocher une victoire. Les Lions de la Teranga ont battu les Polonais par 2-1 en présence du président sénégalais Macky Sall. Le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et l'Égypte filent un mauvais coton avec des défaites. Haroun Abdullah, ex-sélectionneur du MENA du Niger, nous donne son appréciation sur la représentation africaine à cette compétition.
Faut se féliciter un peu du niveau de performance des équipes. Aucune des équipes n'a été ridicule. On n'a rien à reprocher aux valeurs individuelles des joueurs. Maintenant, c'est arriver à créer un collectif à même de tenir psychologiquement et mentalement ces matchs. Et c'est là-bas où on pêche. Les 5 équipes ont pris des buts sur des corners ou sur des coups francs aux abords de la surface de réparation. On pêche sur des petites choses, pas sur la valeur des joueurs, peut-être dans la mise en place d'un collectif qui joue offensivement bien ensemble et qui défend et défensivement très bien, comme l'a fait hier le Sénégal. Athlétiquement, ils étaient présents. Ils ont plus dominé que la Pologne. On peut espérer voir ce Sénégal rééditer, sinon aller au-delà de l'exploit qu'ils ont réalisé en 2002.
La partie magazine à présent, la révolution salafie en Afrique de l'Ouest, c'est la thématique de la conférence animée hier à Niamey par un chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à l'ASDEL. Il s'agit d'Abdoulaye Souna. Il est au micro de Alassane Kouzi Mahamadou.
C'est un courant qui a émergé et qui s'est proposé de redéfinir la religiosité musulmane. Il a été critique, par exemple, des organisations établies ou des discours musulmans ou islamique établi de l'époque, par exemple la Tijaniya, la Kadriya, etc. Et sur la base d'une certaine idée de l'authenticité de la religion islamique. Qu'est-ce qui est authentique à la religion islamique? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est à ce moment-là qu'ils ont introduit cette question de la bid'a. La bid'a, c'est l'innovation qui n'a pas de racine dans la tradition religieuse. Et pour eux, l'idée de réforme à partir de ce moment-là, c'est de pouvoir éliminer toutes les bid'a que la pratique islamique voyait en elle émerger à cause d'un certain nombre de pratiques sociales, politiques, religieuses. Donc, c'est un projet de purification de la religion islamique.
Vous avez aussi signifié que les salafis ont cet objectif de moraliser l'État.
Ce que je voulais dire surtout, on peut comprendre le salafisme de façon générale comme l'expression d'un besoin d'État, mais qui n'est peut-être pas toujours compris comme tel. Je crois que les salafis, ce qui les motive, ce qu'ils veulent voir, c'est que la société produise un État qui correspond véritablement à ses aspirations, à ses préoccupations. Au fond, c'est un projet d'État islamique que l'on entend s'articuler dans le discours salafi.
Par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui comme actes qui sont posés par des organisations, en tout cas, qui se réclameraient ou à qui on attribuerait d'être salafi et qui pose des actes, notamment les attentats contre des musulmans. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet état de fait?
Le phénomène de terrorisme, le phénomène d'attentat, c'est un phénomène qui est nouveau dans la tradition islamique de façon générale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra retenir. Alors, si je dis cela, c'est que je voudrais dire qu'il faudra interroger les conditions dans lesquelles, justement, cette violence-là s'exprime. Qu'est-ce qui a apporté cette violence-là? Ça peut être des causes religieuses, des causes de contradictions religieuses, mais ça peut être aussi d'autres causes sociopolitiques qui vont faire en sorte que certains agendas sociopolitiques vont utiliser la religion pour s'établir ou pour s'exécuter. Comme chercheur, ce que j'essaie de comprendre, je ne juge pas l'acte d'attentat. J'essaie de comprendre l'attentat comme le résultat d'un comportement social.
Fin de ce journal. Tout de suite, Michel Deji et son invité, le représentant de l'OIM, vous parlent de la situation des migrants au Niger. Bonne écoute.